Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, jusqu'à 19h, on décortique toute l'actualité avec les grandes voix. Ce soir, l'éditorialiste d'Europe 1, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être présents ce soir pour décrypter avec nous donc ce discours de politique générale réglé comme du papier à musique, une heure pile. D'abord votre sentiment sur la forme, allez, Mickaël Darmon.
Bien, sur la forme, on a eu effectivement la confirmation que Jean Castex, que l'on croyait un haut fonctionnaire déguisé en politique, est en fait un politique qui fait de la fonction publique de son métier. Parce qu'on a quand même compris dès le départ qu'il enchâssait, qu'il encastrait toute son analyse et toutes les mesures très nombreuses qu'il a annoncées, d'abord dans un diagnostic assez sévère. Et assez sombre même parfois de la situation de la France, de cette crise qui a agi comme un révélateur et qui a révélé la faiblesse de l'appareil productif, la difficulté de pouvoir répondre aux demandes. Et ces France, très étonnant ce qu'il a employé à ce moment-là, ces différentes France qu'il faut
ressouder. Réconcilier
ces France. Alors bien évidemment, il s'appuie sur ce que l'on sait maintenant tous, ce que l'on... On a compris cette idée d'une France archipélisée. Mmh. Eh bien, il dit qu'il faut absolument les ressouder. C'est le gouvernement qui prend acte de cette situation-là. Et ce qui a permis ensuite de décliner toutes les mesures comme étant, au fond, une matrice d'un programme quasi présidentiel pour 2022, c'est-à-dire à la fois dans ce gaullisme social, cette tentative de dépasser les clivages. Mais là, on y reviendra, j'imagine,
tout
précisément.
Fait. Frédéric Dabi et Mickaël viennent le dire. En effet, les mots sont durs envers l'État. L'État ne s'est pas adapté à la France. La tendance ne suit plus. Les mots sont très, très durs, très fermes, dès le début d'ailleurs du discours.
Oui, c'est vrai que c'était une véritable rupture par rapport à des discours précédents, notamment des discours de politique générale, souvent jugés très longs, souvent jugés ennuyeux, où on enfilait des perles ou des poncifs ou des mesures. Sur la forme, pas d'envolée lyrique... également, mais une feuille de route
simple,
concrète avec,
efficace.
Je dirais, une sorte de mantra, une posture qu'il a répété à plusieurs reprises, la défense des territoires qui ne mentent pas, des territoires qu'il a voulu valoriser. Le terme
qu'il
réarmer les
tout
territoires,
au long de cette heure,
réarmer, c'est
libérer
un terme
libérer, même aussi
libérer.
Alors
les territoires.
Réarmer, ça avait été utilisé par des candidats de droite à la primaire de 2016, notamment Jean-François Copé. On a bien vu qu'il était sur des constats extrêmement durs, et c'est vrai qu'il a parlé d'un coin, il a levé un voile noir qui n'est jamais abordé, c'est l'inefficacité de la parole publique, l'inefficacité de loi, où pour les Français, dans notre imaginaire, il y a une vision performative. Quand une décision est annoncée, dans notre imaginaire, elle va être réalisée immédiatement. Quand une loi est votée, elle entre en vigueur. Là, très clairement, il a montré que l'intendance ne suivait pas et qu'il y avait un souci d'efficacité des décisions qui étaient prises. Je crois que c'est quelque chose de très très nouveau auquel les Français ne pensent pas, mais c'est ça qui explique cette défiance qu'on a vue aux élections municipales, notamment, qui est que des lois sont décidées, votées, mais dans le concret, l'intendance ne suit pas.
Et pour prolonger effectivement sur ce constat de défiance, il a aussi, ce qui est très rare pour le représentant au plus haut niveau d'un exécutif, il a posé également cette France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Et cela,
manière
c'est
de parler aussi à cette France des gilets jaunes.
Des gilets jaunes, des abstentionnistes, parfois de ceux qui vont voter aux extrêmes, de cette France en colère. Et ça, c'est un module très important qui confirme qu'effectivement, il y a une volonté d'envoyer des messages à tout le monde et de préparer effectivement les rassemblements électoraux de ces France. Parce que ressouder la nation, ça veut dire aussi ressouder l'électorat pour le premier tour. Au moins, ça c'est aussi
évident. Avant de parler et de rentrer dans le fond des sujets, je voudrais qu'on écoute Daniel qui nous a contacté au 39-21. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Limoges, on vous écoute. Votre
Tout
impression alors, vous avez suivi ce discours de politique générale?
Écoutez, oui, j'ai regardé sur la chaîne 13. Simplement, moi je pense qu'on est à nouveau Delevoye bis amélioré. Voilà.
Ah oui,
un camelot de la parole. Pourquoi promettre des choses parce qu'il en a promis des choses en 600 jours, alors qu'ils n'ont pas été capables de le faire en 3 ans.
Après, c'est le but d'un discours de politique générale, de fixer un cap.
Oui, enfin, une politique régionale, une politique générale, pourquoi ressouder? Puisque de toute façon, depuis 3 ans, il n'y a que les marcheurs qui ont réussi, qui ont fait bien. Donc la France, normalement, n'a pas été ressoudée. Or, si elle est ressoudée, c'est qu'ils ont échoué. Et on repromet encore sur 600 jours. Il y a quand même quatre priorités qui doit de toute façon engager et pas rembarrer, comme a dit hier le président, là, je ne sais plus quel mot il a utilisé, qui était un peu pas bien formulé d'ailleurs. Moi, je pense que les quatre priorités, c'est l'emploi, priorité sanitaire, bien sûr, priorité sécuritaire et une priorité pour la jeunesse et les retraités.
Un petit mot de Frédéric Dabi, Daniel.
Alors, Daniel vous répond. Ce que dit Daniel est extrêmement intéressant. D'une part, les priorités qu'il décrit sont en gros les priorités des Français, avec l'emploi qui arrive en tête dans un contexte de crise économique à venir. Là où je suis, où ce qu'il dit est moins partagé par les Français, s'il y a une critique que les Français font adresse peu à Emmanuel Macron, c'est des promesses non tenues, à la différence de Nicolas Sarkozy, voire de François Hollande. C'est plutôt la critique en termes d'injustice de la politique menée, d'une politique qui est en faveur des Français qui vont bien. Par contre, là, on va en parler un peu plus tard, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la complémentarité avec Emmanuel Macron. Jean Castex a osé parler du régalien et de sujets qui fâchent qui n'avaient pas été du tout abordés par le président hier.
Merci Daniel qui nous a appelé de Limoges. Bien évidemment, on en reparle dans un instant. On va parler notamment du chômage et du plan de relance. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
On continue bien sûr à décortiquer ce discours de politique générale d'une heure. Avant de parler, messieurs, du chômage, je voudrais qu'on revienne sur un point, le style Castex. Est-ce que finalement, cet après-midi, les Français ont découvert un homme, une autorité, Michaël Darmon ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de relance. Jean Castex relance la fonction à Matignon. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de l'effacement de la fonction, mais il y a un patron à Matignon. Mmh. Et d'ailleurs, la façon dont ça s'est passé aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est qu'en facial, on va dire, à la tribune, il a rendu un hommage appuyé à Édouard Philippe. Et en coulisses,
dès le début du
il
discours,
a limogé,
en effet.
Ouais. à sa demande, le secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, pour cause de philippisme.
Oui.
Donc, de ce point de vue-là, on a bien compris que c'est, on est
la
face
page est
à un,
tournée, quoi.
C'est un acte politique extrêmement important pour la machine de l'État.
Ça faisait 5 ans qu'il était là.
Il était considéré comme étant le Premier ministre bis qui réécrivait tous les projets de loi, qui passait par-dessus les ministres. Et il était souvent en bisbille avec la légitimité des ministres. Et là, à la demande de Jean Castex, il est parti. Remplacé par Claire Landais, qui
donc il a clairement les rênes.
Voilà, absolument. Donc c'est un acte, vous savez, de baron local, ça. Le premier acte que fait un patron de département ou de mairie lorsqu'il arrive en poste, il met la main sur l'administration en changeant le secrétaire général. Oui. Et là,
ou le DGS. C'est
ce geste-là montre qu'il met l'autorité sur l'administration et tous ceux qui ont compris dans la machine de l'État ont bien compris qu'ils vont devoir craindre Jean Castex.
Frédéric Dabi.
Je suis tout à fait d'accord du point de vue de l'opinion publique par rapport auquel je me place. Ouais. Je nuancerai un petit peu. D'une part, la scène parlementaire est peu visible. On verra les audiences, mais le discours de politique générale, surtout en cours de mandat, est peu suivi.
Oui, on parle de l'autorité politique.
Oui, d'autres non, mais c'est aussi la révélation Jean Castex, mais il reste un inconnu. Du côté des Français. Nous
Bien
avons publié le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match avant-hier. Il a une cote de popularité intéressante pour un départ, mais inférieure à celle d'Edouard Philippe et du deuxième Premier ministre de François Hollande, en l'occurrence Manuel Valls. Et sa nomination n'a pas créé de choc d'opinion. Beaucoup de Français sont encore sur la nostalgie ou le regret d'Edouard Philippe. Mais c'est vrai qu'il a sans doute se révélé. Et c'est vrai également que le fait d'avoir été, et ça a été le cas également d'Edouard Philippe en 2017, court-circuité par la parole présidentielle du 14 juillet, a sans doute suscité, a fait perdre un petit peu d'intérêt. Mais c'est vrai que les débuts sont plutôt prometteurs et en rupture avec ce qui était attendu du fonctionnaire matiné d'élu local. C'est peut-être l'inverse.
Allez, les annonces maintenant. Jean Castex qui a fait de la lutte contre le chômage la priorité de son gouvernement. On l'écoute.
La première urgence, parce que ce sont toujours les premiers touchés par la crise, parce qu'ils sont l'avenir. Ce sont les jeunes. 700 000 d'entre eux vont bientôt se présenter sur le marché du travail. Aucun d'entre eux ne doit se trouver sans solution.
Voilà, priorité donc au chômage. Et au chômage des jeunes, il faut rappeler qu'ils seront 700 000 à arriver sur le marché du travail au mois de septembre. Michaël Darmon, on a mis le paquet là sur les jeunes. Et c'est bien sûr dans la continuité de ce qu'a annoncé le président Macron hier midi.
Oui, parce que l'annonce principale, on a beaucoup commenté l'annonce d'Emmanuel Macron sur le port obligatoire des masques. Mais pour moi, l'annonce principale d'hier, c'est d'avoir assumé qu'il y aura peut-être sûrement un million de chômeurs au printemps 2021.
Exactement.
Supplémentaire. Donc ça, c'est quand même très important. Et ça profile, reparamètre toute la politique publique avec tous les enjeux. Et bien évidemment, les jeunes qui arrivent en nombre sur le marché du travail, d'autant plus que cette année, le bac a été donné plus facilement, donc ils arrivent encore plus nombreux, et évidemment ça va poser ce problème. Et il y a toujours, n'oublions pas ce qui s'est passé hier, hein, entre la place de la Bastille, personnel soignant qui manifeste avec 1700 gilets jaunes ou apparentés qui arrivent à s'infiltrer. L'interpellation au jardin des Tuileries du président par un groupe de gilets jaunes, on a l'impression d'avoir vécu en précipité chimique, si je puis dire, la rentrée. Ça va être très dur. La colère est toujours là.
Il y a du boulot pour réconcilier
les
deux France.
De ce point de vue-là, effectivement, l'enjeu, l'équation est extrêmement délicate.
Frédéric Dabi, c'est vrai que là, il a été plutôt en continuité avec ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il a mis en musique ou il a approfondi les premières annonces faites par le président qui s'est comporté hier un peu comme un Premier ministre sur la question de l'emploi et sur la question de l'environnement. Il a rajouté deux choses qui sont aussi liées à la jeunesse. D'une part, les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. Il y a du monde. Et puis, les 100 euros pour l'allocation de rentrée scolaire. Partons loin derrière nous. En 94, quand la France avait connu aussi une croissance déficitaire, ça avait été la mesure phare du gouvernement Balladur. Maintenant, c'est vrai que l'emploi devient la première préoccupation des Français, mais il l'a, comme Emmanuel Macron, lié à la question environnementale. Plus que jamais, l'exécutif s'inscrit en adéquation avec le discours que l'on recueille à l'IFOP chez les Français, qui oppose de moins en moins, un peu comme une bataille d'Hernani, la fin du monde et la fin du mois, la question économique et la question environnementale, mais la lie maintenant plus que jamais. Il sera jugé sur les résultats, et si on parle présidentiel, Emmanuel Macron, comme Giscard d'Estaing en 81 et comme Nicolas Sarkozy en 2012, finira son mandat dans un contexte de crise économique forte.
Et Mickaël Darmon, un petit mot rapidement avant de faire une nouvelle pause. C'est passé presque inaperçu, mais s'il y a la confirmation de la création d'un commissariat général au plan, c'est important, c'est un retour.
Préparer la France à 30 ans, à 2 ans de l'élection présidentielle, vous avez compris, c'est quand même une fonction qui arrive un peu tard, on va dire, dans le quinquennat. C'est quelque chose qui aurait pu peut-être, qui aurait mérité, si elle avait cette importance, d'arriver dès 2017.
La volonté, c'est de prendre
à bras
le corps cette crise.
Comme on l'entend, on n'est pas certain, mais on verra bien, comme si on l'entend, c'est un poste qui va échoir à François Bayrou, auquel cas on sera plus proche du bâton de maréchal que de la fonction opérationnelle.
Allez, nouvelle pause. Dans un instant, on parle d'écologie et on parle de relance. Est-ce que les deux sont compatibles? On va le voir. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Thierry Dagiral ce soir, l'éditorialiste d'Europe 1, Mickaël Darmon et Frédéric Dabi de l'IFOP.
On va parler d'écologie maintenant parce que ça a été au cœur de ce discours de politique générale. Grosse priorité de sa relance, Jean Castex cet après-midi à l'Assemblée.
Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité. Faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Voilà, Mickaël Darmon. Hier, on était un peu resté sur notre faim avec le président Macron. Là, aujourd'hui, le Premier ministre va nettement plus loin.
Oui, il détaille d'abord effectivement ce plan vert de l'économie verte qui passera aussi par les régions avec le plan vélo, avec les milliards mis sur la rénovation thermique. On avait déjà vu avec Emmanuel Wargon sur Europe 1 qu'elle avait annoncé effectivement 4 milliards sur la rénovation du bâtiment. Mmh. Donc tout cela rentre dans cette logique-là. Ce qui a été particulièrement intéressant, je trouve, c'est la manière dont il a, une fois de plus, posé ce principe en disant l'écologie, c'est l'affaire de tous. Cela veut dire que ça n'est pas l'affaire d'Europe Écologie Les Verts.
Exactement.
En clair, le pari politique qui est posé à la fois par le président de la République et le Premier ministre, c'est que les Verts, pour 2022, ne seront pas capables de s'organiser, vont avoir tellement de tensions internes pour désigner leurs candidats, ne seront pas prêts, et qu'en en ayant une politique volontariste sur l'économie de l'écologie et non pas l'idéologie de l'environnement, eh bien, à ce moment-là, ils pourront être en capacité de pouvoir être crédibles. Ça, c'est le pari que fait Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle Jean Castex déroule de cette manière son programme.
Frédéric Dabi.
Alors, le constat est tout à fait juste. Reste à conquérir l'opinion publique. D'une part, le sentiment d'inaction depuis le début du quinquennat est absent de tous les domaines, sauf la question environnementale, y compris lorsque Nicolas Hulot était à l'hôtel de Roquelaure. D'autre part, quand on interroge les Français sur la formation politique en laquelle on a le plus confiance pour faire avancer les choses en matière environnementale, EELV écrase toutes les autres en marche, et donc la majorité présidentielle est en difficulté. Là, ce qui a été intéressant, c'est en termes de timing, il a parlé autant du plan de relance économique que de l'environnement. Comme je vous le disais, Thierry, il cherche à lier les deux pour sortir du discours sarkozien de 2011. L'environnement, ça commence à bien faire. On aura ce type de tentation quand le chômage va très fortement augmenter, avec l'idée, mettons le paquet sur l'environnement. Là, il était vraiment en complémentarité, en approfondissement d'Emmanuel Macron, en liant un pacte de relance à la fois écologique et économique et environnemental. Mais sur cette question-là, il y a une véritable défiance et une suspicion de l'opinion publique. L'affaire du glyphosate est, de ce point de vue-là, un acte lourd.
Je voudrais qu'on consacre les dernières minutes de cette demi-heure ensemble avec les grandes voix sur le Castex qu'on vient de découvrir également. Un Castex, républicain, Michaël Darmon.
Oui, effectivement, et il a, comme on dit, comblé un peu les trous de la raquette du discours présidentiel hier sur le régalien, parce que c'était étrangement absent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a matérialisé un discours présidentiel quand même. Hein. On ne se souvient plus du discours de Mulhouse, pas celui consacré par le président au système de santé, mais celui qui était avant le confinement, quand il était à Mulhouse, dénoncé les méfaits du séparatisme, du communautarisme, et qu'il avait annoncé des mesures.
Exact.
Depuis, il y a eu la crise sanitaire, tout était passé à l'as. Là, il le revitalise avec un projet de loi.
Et
là, c'est intéressant, c'est l'architecture qui est mise en place.
C'est-à-dire pour la rentrée.
On a une architecture politique qui se met en place avec, d'un côté, une action économique et un plan anti-licenciement massif, et de l'autre, qui va concerner très sensiblement une partie, donc peut-être d'un électorat qui pourrait aller vers la gauche, et puis un projet de loi contre le séparatisme et l'islam radical, qui là va fixer à droite. Et une fois de plus, on voit que le programme qui est mis en place de gouvernement correspond à une matrice de campagne présidentielle.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai qu'il a vraiment comblé les absences du discours d'Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a parlé au lendemain du drame de Bayonne, qui est le sujet dont les Français ont le plus parlé dans notre baromètre des faits fiduciaires pour Paris Match, juste après la question du Covid, après le bus incendié, le gymnase incendié à Nanterre, et le régalien a été absent. Là, clairement, il a tenu un discours extrêmement fort. Un projet de loi sur le séparatisme, ce n'est jamais vu. Lorsqu'il dit qu'aucune religion, aucun groupe ne peut s'approprier l'espace public, on attend de ce point de vue-là des résultats. Il y a, comme le dit Michael, un risque, c'est que ce bloc de droite qui soutient les réformes d'Emmanuel Macron, des réformes économiques, est resté très fortement sur sa faim sur les questions régaliennes, sur les questions identitaires, sur les questions sécuritaires. Et là, il y a le risque de trouver, en cours de mandat, en fin de mandat, une alternative à Emmanuel Macron, un réceptacle qui pour l'instant n'existe pas vraiment, mais qui pourrait se matérialiser.
Michael Darmon, pour terminer rapidement, promouvoir la justice du quotidien, les petites incivilités, la création, la volonté de créer des juges de proximité.
Oui.
On n'en sait pas plus pour l'instant.
C'est la même logique. C'est la même logique, et c'est la logique effectivement de s'adresser à cette France qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins.
Ouais.
C'est la raison pour laquelle il y a cette volonté de, à la fois de dire nous allons penser aux victimes, a dit Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, et de dire, eh bien voilà, nous allons tenter d'apaiser, ce gouvernement veut tenter d'apaiser la colère des Français qui est toujours aussi vive. L'équation politique maintenant pour ce gouvernement et le président, c'est d'arriver à renverser la vapeur et de faire en sorte d'apaiser après 3 ans de crise.
Merci beaucoup, merci à vous ce soir d'être venu décortiquer avec nous ce discours de politique de général. Merci à vous.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h de François Claus, on revient bien sûr sur ce discours de politique générale. À tout de suite.